Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On conclut ce matin provisoirement notre série qui pourrait durer toute l'année, intitulée « Territoire sans ménagement ». Le thème de cette dernière émission, la forêt et la centrale à biomasse de Gardanne.
Alors ici, on est dans une chaufferie, la plus importante qu'on a pu réaliser sur le territoire d'Embrun. Une chaufferie qui correspond à 2,7 MW. 2,7 MW, ça commence à être une chaufferie très importante. C'est la plus grosse chaufferie publique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On avait commencé par une chaudière qui faisait 1,5 MW. Et on a rajouté une autre chaudière pour arriver à 2,7 MW. C'est une chaufferie qui est importante, d'autant plus qu'elle alimente ce qu'on appelle un réseau de chaleur, qui alimente un certain nombre de services publics, mais pas que, puisque à partir du réseau qui part de cette grosse chaufferie, en fait, il y a 200 logements sociaux, une centaine de logements participatifs, les écoles à la fois primaires, maternelles, salles des fêtes, postes, etc. Et donc, c'est un réseau qui est relativement long, puisqu'il a 2,4 km de longueur, aller-retour, c'est-à-dire qu'il y a 4,8 km de mes tuyaux isolés qui partent d'ici et qui partent à la fois sur le nord et sur le sud de la commune. C'est une chaufferie donc qui est alimentée au bois, bien entendu, et c'était un peu l'objet de notre action, histoire de valoriser le bois local. Et puisqu'on alimente un certain nombre de bâtiments qui sont soit à caractère social, en tout cas d'habitat, y compris le lycée-collège, on a besoin d'avoir une chaudière fuel, histoire de pouvoir, en cas de panne, en cas de réparation, ça peut arriver bien entendu, faire en sorte qu'il y ait continuité du service et que vraiment ça continue à chauffer.
Marc Viossard, vous êtes adjoint au maire de la ville d'Embrun, en charge des questions d'agriculture et de forêt et d'environnement. Vous êtes à l'origine de cette chaufferie à bois de cette commune. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie, la décision de faire cette chaufferie ? On ne peut pas dire qu'Embrun soit exactement une commune forestière.
La commune d'Embrun a des forêts, c'est ce qui est important. Donc l'idée même de partir là-dessus, c'est la passion qu'on peut avoir, que je peux avoir sur le développement local. Donc développement local avec nos ressources locales, c'est une chose qui nous a intéressé. La ressource locale la plus facile à avoir pour nous, pour la ville d'Embrun, comme pour toutes les communes adjacentes, en fait, c'est le bois qui est exploité de façon coordonnée avec l'ONF, mais sur lequel bon nombre de bois ne sont pas exploités parce que d'une faible valeur sylvicole, je dirais. Et donc, il est intéressant, avec ces deux choses qui étaient développement local et avoir une ressource locale intéressante, de partir sur un projet. Donc, on est parti sur une petite chaufferie dans un premier temps avec 400 kW. On est parti sur une plus grosse chaufferie. Et c'est vrai qu'on avait quand même des objectifs d'ordre économique, environnemental et sociaux. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, on ne voulait pas a priori que le fait d'avoir un militantisme, entre guillemets, sur le fait d'utiliser nos ressources locales et d'être sur un réseau vraiment très local, on puisse pénaliser les habitants qui pourraient être raccordés. Donc l'aspect économique, on l'a vu un peu en amont et surtout on l'a vu au fur et à mesure. La deuxième chose, c'était l'aspect environnemental. C'est-à-dire que mettre des camions qui nous amènent du bas de la région du fioul domestique pour alimenter les chaudières communales et de tous les habitants, c'est une chose qui nous choque à tout prix, en sachant que c'est plus facile de faire partir du bois de nos forêts et de les amener sur une plateforme bois énergie, de manière ensuite à les transformer sous forme de plaquettes et ensuite de les redistribuer dans les chaufferies. Et enfin, on avait un objectif social qui pour nous est intéressant quand même, du fait qu'il pourrait être intéressant de faire en sorte que les charges locatives, notamment des HLM, entre guillemets, puissent être limitées du fait que ce sont des charges qui sont incompressibles a priori. Et le fait d'agir sur le prix, c'est une chose qui est vraiment intéressante d'un point de vue général par rapport à la situation sociale de notre commune.
Ça signifie, Marc Viossard, que c'est économiquement intéressant pour les ménages d'être chauffés au bois par le réseau de chaleur que vous avez mis en place?
C'était l'objectif et les résultats qu'on a aujourd'hui montrent bien que les objectifs sont tenus. Je peux vous donner les chiffres d'aujourd'hui. Les chiffres d'aujourd'hui, c'est un comparatif entre le fioul et le bois. C'est-à-dire que le comparatif, si on était resté au fioul et le fait d'être passé au bois. Au jour d'aujourd'hui, sur la dernière campagne qui correspond à l'hiver 2013-2014, on est à moins 16% du coût pour les ménages, en moyenne, du bois par rapport au fioul. En sachant que, figurez-vous, c'est un peu paradoxal, mais l'année d'avant, c'était moins 19%. Mais vous savez très bien que le fioul a baissé ces derniers mois, ces derniers semestres, ce qui explique bien que, en fait, on est sur une courbe logique qui montre qu'on est sur un maintien durable du prix de l'énergie.
Le prix du bois, lui, est relativement stable ?
Alors, il est stable avec une augmentation régulière, mais qui ne sera jamais liée au pic qu'on peut retrouver sur les énergies fossiles. C'est ainsi que nous, il prend 1 à 2% par an, lié au fait que, bien entendu, on utilise des camions, on utilise du fioul pour aller chercher le bois en forêt. Et donc, il y a un impact qui est certes minime, mais qui est lié au coût de la vie, au coût des transports, au coût du fioul en tout cas. Mais c'est vrai que par rapport au coût du fioul, le comparatif réellement énergétique, le bois est 3 fois moins cher que le fioul d'un point de vue énergétique. Par contre, il faut savoir que de mettre en place des chaufferies a un certain coût. Un coût d'investissement lourd lié au fait que c'est un réseau de chaleur avec des tuyaux isolés et qui coûtent très cher. On est autour de 400 euros le mètre linéaire. Comme on a 2400 mètres linéaires, par exemple, sur notre plus gros réseau, c'est pas négligeable. On est obligé de faire des gros bâtiments, des grosses chaudières, des gros circulateurs qui permettent de pousser l'eau chaude jusque dans les immeubles. Et c'est vrai que c'est un investissement lourd. Et une partie, donc, de la facture finale est liée à l'investissement qu'on a réalisé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette partie liée à l'investissement, c'est une partie qui est quasiment fixe et que la partie variable ne correspond qu'à 50% de la facture. Ce qui veut dire que même s'il y avait une très grosse augmentation du prix du bois, elle n'impacterait la facture finale que sur la moitié de la facture, puisque l'autre correspond à l'investissement initial.
Mais de toute façon, ce que vous nous décrivez là, c'est un investissement unique. C'est-à-dire là, il y a des questions d'amortissement. Vous n'avez pas besoin de réinvestir régulièrement. Ou bien est-ce qu'il faut refaire régulièrement ces fameux tuyaux isolés dont vous nous parlez ?
Non, mais c'est vrai qu'on se doit, en tant que bon gestionnaire, de mettre de côté de l'argent, donc c'est la dotation aux amortissements, de manière à ce qu'on puisse, au bout d'un certain nombre d'années, être en capacité de rénover le circuit. Mais bien sûr, le bâtiment tel qu'on a réalisé, il a une durée de vie a priori d'une cinquantaine d'années, le réseau de chaleur de plus de 30 ans, il est évident que c'est un investissement initial qui est important et sur lequel on supporte des remboursements d'emprunt, des remboursements à la fois financiers plus de capital, qui font qu'on a besoin d'avoir la partie fixe que j'évoquais tout à l'heure.
Est-ce que la chaufferie telle qu'elle a été conçue est aux normes actuelles, c'est-à-dire est-ce qu'elle produit suffisamment de chaleur par rapport au bois qui est brûlé ?
Oui. C'est ainsi que, si on parle de normes, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Mais si vous voulez bien, je reviens un peu en arrière par rapport à la mise en place de ces chaufferies. Il y avait une certaine peur, à la fois de nous-mêmes et de la population, par rapport à l'impact que pouvait avoir une chaufferie sur notre territoire. C'est une chaufferie de grosse capacité qui nécessite un certain nombre de mètres cubes de mètres bois. Pour être simple, nos chaufferies correspondent à une utilisation de 3000 tonnes par an. Et donc, les peurs étaient les suivantes. Le fait qu'on fasse de la déforestation, le fait qu'on soit en situation d'avoir une pollution locale importante due aux fumées, c'était deux peurs qu'il a fallu faire en sorte d'aller au-delà de ça. Et donc, par rapport à la peur de la déforestation, il a fallu qu'on fasse un plan d'approvisionnement territorial qui détermine sur un territoire combien de mètres cubes on pouvait exploiter à une distance de transport qui permette d'avoir une tarification intéressante. C'est la première chose.
Excusez-moi, je vous interromps, mais ça conditionne d'une certaine façon la dimension, la taille de la chaufferie que vous pouvez construire sur votre territoire.
Bien évidemment, et c'est pour ça que l'un des facteurs limitants, c'est l'approvisionnement et la sécurisation de l'approvisionnement. Mais c'est vrai que c'est un point sur lequel on avait besoin de se sécuriser, nous. Et par rapport aux peurs que j'évoquais, on a bien sécurisé la chose en sachant que maintenant, on est tranquille par rapport à ce plan qu'on a réalisé en lien avec l'ONF. La deuxième chose était, je l'évoquais, donc les fumées qui pourraient être polluantes par rapport à notre territoire, qui est un fond de vallée sur lequel il n'y a pas toujours de l'air pour faire voler les fumées. Et donc, dès le début, on a voulu se mettre aux normes européennes les plus exigeantes, ou même les normes européennes dont l'application ne sera que dans quelques années, de manière à ce que les poussières fines n'impactent pas notre territoire. Et c'est ainsi qu'on a mis un certain nombre de filtres. Et c'est très draconien, parce que ces filtres-là demandent de la technologie très importante. Donc on fait tourner les fumées de manière à ce que les poussières fines s'appliquent, qu'on récupère ensuite. Ensuite, on s'applique à travailler d'un point de vue magnétisme pour récupérer encore les plus fines, de manière à ce que ça ne soit pas du tout impactant pour la santé. Et la seule chose qu'on voit, c'est de la fumée blanche qui sort de nos cheminées. La fumée blanche, c'est de l'eau.
Donc, Marc Viossat, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.
C'est un projet, au vu des résultats qu'on a eu, c'est un projet qui marche très bien. J'évoquais l'aspect économique, puisque c'est pour tout un chacun qui est raccordé, il y a économie, bien entendu. D'un point de vue environnement, il n'y a pas photo. Vraiment, on travaille avec des économies de CO2, etc. C'est vraiment une chose qui est intéressante, puisque le bois permet d'avoir une neutralité par rapport aux consommations du CO2. Le seul sujet qu'on pourrait avoir, c'est sur l'approvisionnement, et c'est la crainte qu'on peut avoir. En rajoutant quand même que dans l'aspect qu'on voulait développer, qui était le développement local, une telle chaufferie avec l'approvisionnement, c'est une création d'emplois nets très intéressante, hein, puisque là, rien que cette chaufferie, on a un certain nombre d'emplois réalisés.
Vous avez remarqué que j'ai employé l'imparfait ?
Alors, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien, mais on a une inquiétude liée au fait que notre approvisionnement n'est pas complètement sécurisé. Et pour la simple raison qu'il s'est passé au niveau régional un certain nombre de choses qui nous fait craindre que la mobilisation des bois locaux aille non pas chez nous, mais puisse aller ailleurs, parce qu'ailleurs, il y a des projets surdimensionnés qui font qu'on va se trouver sûrement en situation délicate.
Ailleurs, c'est à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, c'est à 2 heures de route d'ici ?
Oui, 2h30 de route. Et c'est un gros dossier auquel se rajoute également un dossier sur Brignoles dans le Var, pour lequel il va y avoir des consommations de bois qui vont être très importantes. Cela correspond à des appels à projets biomasse qui ont été réalisés par l'État et qui correspondent à des consommations qui sont énormes, puisqu'on est sur des domaines de l'ordre de 150 000 tonnes sur chaque chaufferie.
150 000 tonnes, ça c'est pour Innova, Brignoles. Le projet E.ON à Gardanne, c'est plus de 450 000 tonnes.
Alors, ça pourrait être 450 000 tonnes, mais 450 000 tonnes, sur mes connaissances que je peux avoir, il est prévu qu'ils aillent chercher du bois ailleurs. Alors, quand je dis 150 000 tonnes, ça peut être 200 000 tonnes, sûrement, mais globalement, ils sont quasiment engagés à importer du bois. Alors, ce qui est paradoxal, vu de mon petit cercle, etc., et vu de notre département, il est paradoxal de se lancer sur un projet qui paraît, d'un point de vue environnemental, excellent, partir sur la biomasse, faire de la cogénération, c'est très très bien, mais si c'est pour importer du bois en masse, et ce n'est pas de l'importation venant de l'Italie ou de l'Espagne, c'est de l'importation, on parle du Canada, on parle de l'Afrique du Sud, on parle de l'Ukraine, etc., ce qui paraît complètement fou. Et d'autre part, la problématique qu'il y a, c'est qu'on parle de cogénération, mais on ne va pas faire de cogénération. Et donc, autant lorsqu'on fait de la cogénération, on peut penser qu'on peut avoir des rendements très intéressants, s'approchant de 75% à 80%. C'est les types de rendements que nous, on a pour en chaufferie. Mais si c'est pour faire uniquement de l'électricité, les rendements sont tout autres. On est plus proche de 30% que de ces 75% ou 80%. Ce qui veut dire que la consommation de bois qui pourra exister à partir de ces centrales, ça sera une consommation de bois qui va être gaspillée pour partie. Et c'est ça qui nous choque terriblement.
C'est-à-dire que, très simplement, Marc Biossard, on va brûler 70% du bois qui aura été coupé pour rien.
Pour rien, en tout cas, ils ont obtenu une dérogation pour ne pas faire de la cogénération. Et ce qui est fou, moi, je pense. Et là, il y a des responsabilités qu'on aimerait bien, de notre côté, qui soient soulignées.
Mais alors, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que vous êtes tenu de livrer ou de vendre ce bois ? Comment est-ce que ça se passe ? Puisque vous êtes vous-même adjoint au maire de la commune, vous êtes président de la chaufferie bois, c'est vous qui trouvez la ressource locale, après tout, vous pouvez la garder.
Sur nos bois locaux, bien sûr. Sur les bois de la commune d'Embrun, on en a la maîtrise, et bien sûr qu'on va livrer nos chaufferies avec ça. Le problème, c'est qu'on va être sur une telle tension liée à ce décalage entre l'offre et la demande qu'en fait, notre commune, bien sûr, va suivre. Mais que vont faire les propriétaires privés ? Que vont faire les autres communes qui n'ont pas de chaufferie alimentée ? Au vu des budgets de chaque commune, chacun risque de rester, en tout cas, sur son précaré et d'obtenir les meilleurs prix. Et donc, ça, c'est un véritable problème. Bien entendu, ça veut dire qu'on doit s'organiser. Et c'est pour ça qu'on travaille très régulièrement avec l'association des communes forestières, à la fois départementales et régionales, pour essayer de travailler sur ces choses-là. Et travailler sur ces choses-là, c'est travailler à la fois sur le mode d'exploitation des forêts. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, très souvent, les forêts et les bois portent en adjudication. Il peut y avoir d'autres systèmes qui permettent d'avoir une exploitation forestière qui amène les bois en bord de route. Et après, on trie les bois, et le bois d'œuvre va au bois d'œuvre avec un échange marchand, et on peut se garder tout à fait le bois qui pourrait correspondre au bois d'énergie. Ce sont des bois de moins de qualité, de moins de sections, et qui permettent d'avoir une valorisation quand même non négligeable, mais qui ne va jamais à la hauteur du bois d'œuvre. Et donc, au niveau communal, c'est ce qu'on pense réaliser. On espère travailler avec d'autres communes. On va travailler sûrement sur un système de charte forestière intercommunale, de manière à travailler sur ce devenir, parce qu'il ne faut pas qu'une commune qui ait fait le choix tel que nous l'avons fait soit pénalisée par rapport à d'autres. Il y a des actions qui vont être menées de pédagogie et puis d'action auprès des autres communes ou des autres communautés de communes, de manière à travailler tous dans le même sens, parce que de toute façon, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à la création d'emplois, elle ne correspond pas uniquement à notre commune. Quand j'évoquais que le fait de notre action a fait qu'on a créé 7-8 emplois peut-être directs et un peu plus indirects, ils ne sont pas tous notre commune. Ce sont des bassins d'activité, des bassins d'emplois qui peuvent être développés, et il ne faut pas que chacun tire avec du cant à soi, et on doit avoir une politique cohérente et sur tout un bassin de vie.
C'est en tout cas apparemment ce qui a été compris par un certain nombre de communes, puisqu'il y a aujourd'hui, je crois, 400 communes qui ont en tout cas parlé de leur inquiétude face à ce projet démesuré d'Eon, de centrale à biomasse.
Tout à fait. En ce qui nous concerne au niveau de notre action communale et intercommunale, comme d'autres communes, comme d'autres intercommunalités, on s'est prononcé tout à fait contre ce projet-là, et surtout contre l'incohérence que j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'on a beau être une commune reculée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on n'est pas moins soucieux des finances de nos concitoyens, on est soucieux à faire en sorte que le développement local se réalise aussi chez nous. Et c'est cette incompréhension qui fait que tout le monde se soulève par rapport à ça, et on a besoin d'explications. On sent même que les services de l'État ne sont pas spécialement partie prenante de cette affaire-là. On sent que c'est une affaire qui a été un coup politique sûrement, de lancer cet appel à projet sans voir vraiment toutes les conséquences que ça pouvait avoir. Et ça, c'est le pire que tout. Je travaille depuis pas mal d'années pour la commune, puisque je suis élu depuis 2001. On est toujours très attentif à faire en sorte que les actions qu'on peut avoir, on ne se tire pas une balle dans le pied. Et faire en sorte que notre action publique qu'on peut avoir est positive pour tout un chacun, et non pas faire un coup pour se faire plaisir. L'objectif, ce n'est pas faire pour faire, mais faire en sorte que notre territoire progresse, pour que tout le monde autour de nous s'y retrouve à tout plein de vue.
Là, vous ne vous tirez pas une balle dans le pied, mais on vous la tire dans le pied.
Eh oui, mais les choses ne sont pas finies. Il est certain que ça va se réaliser. Il ne faut pas croire que E.ON va reculer. Il y a eu déjà des investissements de réaliser. Ça va se réaliser. Je pense qu'il va y avoir une action qui va pouvoir se faire, et une action qui va être constructive, notamment avec l'ONF. Je pense que l'ONF est un partenaire avec qui il faut travailler. L'ONF a la possibilité notamment de mobiliser de ses propres bois, puisque vous savez que l'ONF a plusieurs actions. La première action, c'est de gérer ses bois domaniaux, ces bois qui sont en propriété. Et là, il y a des choses à faire. Je veux dire qu'ils peuvent nous aider à faire en sorte que des bois domaniaux locaux arrivent sur nos plateformes locales. Ensuite, son rôle, c'est de gérer en association avec les communes les forêts communales. À ce titre-là, il y a à faire. C'est-à-dire que sur les plans d'approvisionnement, sur les plans de gestion des forêts communales, on peut trier des choses. Et sur la pédagogie, je pense que l'ONF, qui est le civiculteur en chef de tout un chacun, il est important que ces conseils que peut apporter l'ONF fassent en sorte que les choses évoluent au niveau de toutes les communes, de toutes les communautés de communes, de manière à ce que la prise de conscience puisse se faire. Ce n'est pas uniquement aux politiques à travailler, mais on doit travailler vraiment avec les services de l'ONF, avec le service de l'État, de manière à sortir haut dans cette histoire. En sachant que je suis d'autant plus embêté qu'il risque d'y avoir des morts dans cette histoire-là. Quand je dis des morts, c'est dire qu'il risque d'y avoir des problèmes, parce qu'on ne peut pas se dire que 150 000 tonnes à Brignoles, 150 ou 200 000 tonnes au niveau d'Eon, les petites chaufferies locales correspondent à 80 000 tonnes aujourd'hui, 100 000 tonnes demain, et puis après, il y a Tarascon aussi.
La papeterie.
Papeterie, pâte à papier, etc., qui sont un peu plus d'un million de tonnes. Et donc, au vu de la ressource locale, il faudra qu'il y ait des choix qui soient réalisés, et avec un surcoût de la matière première, et c'est le gros risque qu'on pourrait avoir.
Dominique Delorme, Marc Viossa, l'élu d'Embrun, qui est le président de la chaufferie communale, nous dit, très clairement qu'un partenariat avec l'ONF s'impose dans le contexte actuel. Vous-même, vous êtes à l'Office national des forêts, vous êtes délégué syndical au SNUPFEN solidaire. À ce titre, vous avez pu voir les différents épisodes de cette affaire de centrale à biomasse d'E.ON d'abord, et puis maintenant Innova à Brignoles, dans le Var, qui secoue et agite terriblement la région, puisque de fait, on comprend que ça va avoir un impact assez fort sur l'économie locale, sur des projets qui ont été montés, élaborés, qui ont l'air d'avoir un certain succès. Donc, comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui, le rôle de l'ONF dans cette étrange histoire ?
L'ONF est chargée de la gestion des forêts communales. Donc, dans l'Embrunais, on est bien sûr aux premières loges pour ces problématiques d'approvisionnement de la chaufferie bois d'Embrun. Embrun et puis de la commune de Châteauroux qui construit effectivement maintenant une nouvelle chaufferie. Donc, c'est très simple. En quelques années, on est passé d'un état zéro au niveau des chaufferies et de la demande en bois énergie à une situation, on ne va pas dire qui se tend, mais presque. Donc, ça a été très rapide finalement. En quelques années, on voit déjà que ce marché du bois énergie est à construire, est à consolider. Alors, c'est évident que dans ce contexte, des projets industriels comme E.ON et Innova, c'est une pure catastrophe. Il faut savoir que ces projets viennent à un moment où les collectivités, avec le soutien, on peut dire, de l'ONF, sous l'impulsion de l'Association des communes forestières, du département, et puis c'est partout pareil en France, les communes forestières ont été promoteurs pour ces chaufferies locales, pour utiliser au mieux la ressource des forêts communales. Donc en quelques années, on est passé de projet à une situation où le bois énergie est devenu un enjeu sur le marché très important. Et là, effectivement, il y a une espèce d'urgence à essayer de réguler la situation. Globalement, le message que nous, forestiers syndicalistes, c'est de dire que le bois énergie repose sur beaucoup de... Alors, escroquerie intellectuelle, c'est peut-être un petit peu fort, mais c'est un peu ça, puisque, à titre d'exemple, on a participé à une conférence internationale dans la région de Gardanne, à l'initiative des propriétaires forestiers, principalement, qui s'appelait « Biomasse forestière résiduelle ». D'avoir rajouté « résiduelle », c'est vraiment de la com', c'est pour dire « nous, on a une idée géniale, il y a du bois en forêt qui ne sert à rien, et comme on est très malin, on va aller le chercher et on va s'en servir pour faire de la biomasse ». Alors, la biomasse, en fait, c'est la production biologique des forêts. Donc, c'est ce que produit une forêt chaque année. Dans cette production, il y aura une partie qui sera du bois d'œuvre, charpente, menuiserie. Il y aura une partie qui va être du bois industriel, on va dire, donc qui va servir à des palettes, à faire des caisses. Et puis la dernière partie, ça sera du bois qui est inapte aux deux premières catégories et qui sera du bois de trituration. Donc trituration, c'est la pâte à papier et c'est les panneaux de fibres. Et c'est dans cette catégorie qu'on peut ranger finalement le bois énergie. Le bois énergie, c'est du bois qu'on va déchiqueter et c'est du bois qui est impropre à une autre utilisation qu'être déchiqueté. Donc, globalement, le bois énergie recouvre à pratiquement 80-90% le bois qui peut partir dans l'usine de Tarascon pour faire du papier. Donc, il n'y a pas de biomasse résiduelle en forêt. Ça, c'est la première idée que nous, on essaye de bien faire apparaître. Parce que lorsqu'on exploite des bois, il y a effectivement du bois qui reste sur place. C'est ce qu'on appelle rémanent, ça vient du latin, ça veut dire c'est ce qui reste. Le règlement d'exploitation qu'a signé la Fédération nationale du bois et l'ONF, ce règlement prévoit qu'à partir de 7 cm, tout ce qui est inférieur à 7 cm de diamètre reste sur place. Ce sont les rémanents. Et on sait très bien que ces rémanents sont importants pour la vie de la forêt, pour la biodiversité, pour le renouvellement de l'humus, etc., le retour dans la terre d'une partie au moins des éléments minéraux. Actuellement, la mise en vente de ces bois fait qu'à un moment donné, la ressource échappe aux propriétaires que sont les communes. Lorsqu'on vend une coupe, ce qu'on appelle en bloc et sur pied, c'est-à-dire arbre debout, ce qui est le mode de vente le plus courant, l'acheteur devient propriétaire de la coupe et a la liberté de choisir ce qu'il fait du bois. Donc c'est lui qui va trier, c'est lui qui va trouver ses acheteurs. Ce qui veut dire qu'actuellement, le bois s'échappe de l'Embrunet. À titre d'exemple, il y a du bois qui est parti l'année passée de Châteauroux vers la Chine. Parce que à ce moment-là, pour l'exploitant, il y avait un marché avec la Chine qui permettait de valoriser mieux qu'avec l'Italie ou avec le local. Donc on est dans ce contexte. Donc l'objectif effectivement pour les communes et pour l'ONF, c'est de trouver le meilleur système que les communes reprennent la main, en quelque sorte, sur leurs ressources et puissent affecter la partie, on va dire, bois-énergie, hein, bois d'industrie, bois d'énergie, pour les chaufferies locales, de façon à avoir un approvisionnement sécurisé, local, ce qui est complètement dans l'esprit de création de ces chaufferies bois et ce qui fait leur intérêt.
Quelle proportion de la forêt, de la surface forestière, est gérée par l'ONF dans une région comme l'Embrunet, Dominique Delorme?
En France, la proportion de forêt privée par rapport aux forêts domaniales, c'est un tiers forêt publique, c'est-à-dire à la fois domaniale et communale, donc deux tiers forêt privée. Dans le département des Hautes-Alpes, on est à peu près sur ces chiffres. Et avec la question principale, c'est-à-dire le morcellement de cette forêt privée, qui rend très difficile l'exploitation intelligente et raisonnée de ces forêts.
Et vous fournissez une partie du bois énergie aux chaufferies?
Actuellement, le bois énergie est livré sur la plateforme pour les communes par des prestataires privés.
Oui, parce que c'est quand même très étonnant. Ça signifie qu'aujourd'hui, du bois arrive, on ne sait pas exactement d'où, et le bois de l'ONF, le bois qui est produit par les forêts gérées par l'ONF, part, on ne sait pas exactement où.
C'est effectivement le problème du marché du bois qui est mondialisé.
Alors, vous allez me dire si c'est une carte supplémentaire dans le jeu déjà très fourni qu'on a évoqué ensemble, mais une note du ministère des Finances est arrivé, je crois, au début de l'automne 2014, indiquant qu'il va y avoir une réduction assez drastique du budget de l'ONF. Je crois qu'il s'agit à terme, d'ici 3 ans, 50 millions d'euros en moins. Et dans la note, on pouvait lire que ce n'était pas très grave parce que l'ONF allait pouvoir se rembourser sur l'argent qu'il touche des bois qui sont vendus par les communes. Et j'ai trouvé ça assez curieux, personnellement, que l'État, aujourd'hui, incite, d'une certaine façon, les communes à vendre davantage de bois, mais vraiment beaucoup plus. Dominique Delorme.
Je ne sais pas quel est le fondement réel de cette idée de Bercy, qu'on avait déjà vu à l'œuvre en 2011. L'idée, c'est l'État réduit sa participation dans l'ONF et ce sont les communes qui participent plus. Donc, elles participent plus en payant plus cher, effectivement, leurs frais de garderie, c'est-à-dire le pourcentage qu'elles reversent à l'ONF en fonction de leurs ressources. Donc, actuellement, c'est 10% en montagne et 12% en plaine. Et encore plus fort comme impact pour les communes, c'est l'augmentation de la taxe qui est actuellement de 2 euros par hectare et par an. Alors cette taxe, elle n'est pas vieille, elle date de 2011. Elle a été arrachée par le ministère des Finances aux partenaires, ONF et communes forestières, pour la signature du plan qui lie ces trois parties. Donc 2 euros hectare, déjà ça fait grincer beaucoup de dents. Par exemple, les communes forestières de Provence-Alpes-Côte d'Azur ont voté contre lorsqu'elles ont été consultées. Ce vote a été minoritaire, donc les communes forestières au niveau national ont accepté de payer 2 euros hectare. Mais maintenant, la note de Bercy de l'automne 2014 prévoyait de faire monter cette participation de 2 à 14 à terme. Donc ce qui est complètement aberrant, bien sûr. Il faut savoir en plus que dans les forêts de montagne, dans les Hautes-Alpes en particulier, cette taxe est mal perçue puisque elle s'applique à toute la surface de la forêt communale et non pas uniquement sur la partie productive. Il faut savoir que le taux des forêts productives ici varie dans le meilleur des cas 60-70% et dans le pire des cas à 20 ou 30%.
Si E.ON prend véritablement le nombre de tonnes de bois dont il a besoin dans la région, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la forêt ? Dominique Delorme.
Le souci, c'est qu'en France, la forêt publique, donc forêt communale, forêt domaniale, ne représente que 25% de la surface de la forêt totale. Et avec ces 25%, on produit 40% du bois qui est mis sur le marché en France. Ça veut dire que la forêt publique est largement plus exploitée, mise à contribution, que la forêt privée. De là découlent deux dangers. Le premier danger, c'est qu'effectivement, l'arrivée d'éoliennes va faire monter les prix et va éventuellement tendre la situation sur une ressource qui est plus disponible en forêt publique et va bouleverser un peu la donne. C'est-à-dire que par contagion, le bois qui était avant réservé au bois d'industrie, donc pour faire des palettes, pour faire de la caisserie, donc un usage un peu plus noble quand même que le fait de le brûler, il se peut que par contagion, ce bois soit déjà happé un peu dans un système de bois énergie, ce qui est effectivement une catastrophe à différents titres. Donc ça, c'est le premier danger. Et le deuxième danger, c'est qu'effectivement, par rapport à la forêt privée, l'arrivée d'éoliennes, alors il annonce qu'il va payer plus, hein, il y a tout un discours, hein, toute une communication sur le bois plus, donc comme quoi il accepterait de payer plus pour aller chercher du bois que personne ne veut. Ça, on est quand même très dubitatif là-dessus, mais on sent bien qu'il y a derrière une puissance industrielle et financière, et effectivement, par rapport à la forêt privée, par effet de contagion, on a peur effectivement d'assister à des coupes qui ne s'inscrivent pas dans une gestion durable. Et le positionnement, effectivement, pour l'instant, de l'organisme qui gère un peu la forêt privée, qui essaye de fédérer les propriétaires, c'est de considérer Éon comme une aubaine.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stégassy.
Claude Calvé, vous êtes membre du collectif SOS Forêt du Sud. Oui. Et vous vous êtes impliqué dès que ce projet d'Éon a été connu. Dès que, dis-je, parce qu'il n'a pas été connu tout de suite, en fait.
C'est vrai, c'est un projet que l'on a découvert par bribes, petit à petit, puisque c'était très discret à l'origine. Et cela prouve d'ailleurs que c'était un montage, un effet d'aubaine sur la spéculation, sur le bois subventionné.
Vous-même, vous habitez à Gardanne?
J'habite en à Boubelair, c'est-à-dire à 3 km de la centrale.
Et donc, qu'est-ce que vous avez découvert?
Il faut remonter à l'origine du projet, c'est donc un effet d'aubaine, puisque l'industriel propriétaire de cette centrale avait un groupe, le groupe 4, qui arrivait en fin de vie, et surtout en fin de normes, et surtout aussi en début de taxation sur le carbone. Donc ce groupe ne valait plus grand-chose.
Il faut rappeler qu'il s'agissait d'une centrale à charbon.
C'est ça. Donc ce site avait deux groupes au charbon. Et en 2015, un de ces deux groupes arrivait devant des échéances, que ce soit techniques et réglementaires sur le CO2. Donc il fallait qu'il s'en sépare ou qu'il le transforme, qu'il l'améliore, qu'il investisse. Là-dessus, il y a eu convergence d'une part dans le prolongement du Grenelle de l'environnement, d'un plan d'investissement dans la biomasse, et surtout des élections, parce que c'est un projet politique, en fait, qui est né d'un coup de poker magnifique de l'industriel, qui a pu manœuvrer d'abord le côté social en poussant les syndicats à réagir très fortement, ce qui est tout à fait leur job, c'est-à-dire ils ont commencé par menacer tout le monde d'être au chômage. Et puis après, il a mis les politiques au pied du mur, c'est-à-dire maintenant il faut trouver une solution. Et si vous voulez, j'en ai une, c'est le passage à la biomasse, mais on n'entre pas dans les clous, il va falloir inventer de nouveaux critères. Voilà. Alors, pour prétendre à des subventions permettant de transformer ce groupe au charbon en passage à la biomasse, il fallait pouvoir satisfaire à plusieurs critères. Le premier était d'avoir une efficacité énergétique supérieure à 60% pour que le rendement soit acceptable. C'est absolument impossible à atteindre si on ne fait que de l'électricité. Ça, c'est de notoriété commune et c'est surtout le principe de Carnot, on ne peut pas dépasser les 35%. Donc, il a fallu réécrire la loi et les règlements en inventant un concept qui s'appelle le concept de la péninsule électrique. C'est-à-dire, on a décrété que la région PACA était en bout de chaîne de production d'électricité nationale et que si l'industriel s'engageait à fonctionner plus de 7500 heures par an, il pouvait quand même prétendre à la subvention sans faire au moins 60% de rendement. Là, c'était déjà une première forfaiture parce que, en fait, cet argent qui sera facturé sur le consommateur, hein, c'est le rachat du kilowatt à 1,15€ au lieu de 0,48€. C'est une subvention assez conséquente, supérieure à ce que l'on donne aux capteurs photovoltaïques, supérieure à ce qu'on donne à l'éolien terrestre. Et tout ça sans entrer dans les critères techniques. C'est extraordinaire, mais ça a pu se faire. Cela dit, ce projet était en queue de tous les projets qui avaient répondu à l'appel d'offres. Cet appel d'offres était sur 220 mégawatts. Les pressions politiques ont fait que l'appel d'offres est passé à 420 pour pouvoir récupérer Gardanne et récupérer un autre projet de 26 mégawatts à Brignoles. Le projet Innova qui est tout aussi catastrophique puisqu'ils prétendaient faire de la cogénération. En fait, ils ont un terrain jouxtant l'installation, sur lequel il donnerait éventuellement de la vapeur si un industriel venait un jour s'installer. Voyez, voilà. En fait, c'est le résultat, donc une spéculation sur la biomasse subventionnée, pure et simple, qu'il a fallu faire passer dans le contexte préélectoral des présidentielles et des législatives. Alors là, nous avons commencé à entendre parler de ce projet à ce moment-là. Mais tout le monde se disait, ce sont des gesticulations préélectorales, et une fois les élections passées, on reviendra à la raison, ce n'est pas possible de donner tant d'argent pour sauver 68 emplois. Parce qu'en fait, sur le papier, actuellement, les derniers chiffres, c'est E.ON prétend sauver 68 emplois. Si l'on considère le 1,5 milliard de subventions, avec cela, on peut évidemment créer beaucoup plus d'emplois pérennes sur des technologies d'avenir plutôt que sur une installation qui est déjà quasiment dépassée.
Mais Claude Calvé, qu'est-ce qui justifie, d'après vous, une telle bienveillance et de la part des autorités? Est-ce qu'il y a une pénurie d'énergie? Vous parliez tout à l'heure du côté péninsulaire de la région. Est-ce qu'il y a véritablement un manque d'énergie? Puisque j'ai bien entendu dans ce que vous disiez que cette nouvelle centrale à biomasse fonctionnera un nombre d'heures très conséquent dans l'année. Or, il me semble que la centrale à charbon qui était là avant, ce groupe 4, ne fonctionnait pas tout le temps. Il était là pour les pics de consommation uniquement, c'est-à-dire quelques jours par an lorsque la demande est très forte et que là on a recours au charbon. Donc là il s'agit peut-être d'alimenter une région très sous-dotée, mal dotée en termes d'énergie.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de grosses installations, mais plutôt dans la partie totalement est, c'est-à-dire le Var et le 06 et les Alpes-Maritimes, il n'y a pas de grosses installations. Les Bouches-du-Rhône sont pourvues avec fosses, avec la vallée du Rhône, avec la Durance, pas loin. Enfin, il y a un maillage très efficace. Donc s'il fallait faire quelque chose, c'était plutôt dans le Var ou les Alpes-Maritimes. Mais il fallait faire de petites unités en cogénération, c'est-à-dire faire de la chaleur et éventuellement avec l'énergie résiduelle de l'électricité, proche de la ressource, dans de toutes petites unités, ça peut se concevoir. Mais une méga centrale qui prétend être alimentée jusqu'à, en moyenne à 250 km, mais jusqu'à 400 km de Gardanne, et pendant 10 ans avec du bois d'importation, ne se justifie difficilement. C'est vrai que ces groupes électriques fonctionnaient, depuis 2009 c'est sûr, que 2 à 3 mois par an pour écréter la demande. Le problème, c'est que maintenant, elle va fonctionner pendant 7500 heures, c'est-à-dire pratiquement 11 mois par an. Et elle va fonctionner donc avec un tarif hautement subventionné au moment où il y a pléthore d'énergie, c'est-à-dire au moment où nous, on en vend à l'Italie, on en vend à l'Allemagne, on en vend à l'Espagne. Et là, donc, c'est totalement incompréhensible. Donc, c'est vraiment un habillage technico-administratif, cette histoire de péninsule électrique, pour faire passer ce projet, parce qu'il y avait une union sacrée, toutes tendances confondues, pour donner satisfaction aux élus locaux en période préélectorale.
Et un autre point peut-être qu'il faut éclaircir. Vous contestez le fait de subventionner ce type d'énergie, vous contestez le bien fondé même de l'existence de cette centrale à biomasse. On est tout de même dans une période où la transition énergétique est considérée comme extrêmement importante. On est en train de chercher à développer les énergies renouvelables. La biomasse, c'est de l'énergie renouvelable. C'est comme ça qu'elle est présentée. Et donc, finalement, subventionner une énergie naissante qui doit arriver sur un marché où, on le sait, le nucléaire a déjà une part extrêmement importante, c'est peut-être une bonne chose, finalement.
Ce serait une bonne chose si c'était de la biomasse en cogénération, près de la ressource, dans petites unités, et près aussi du consommateur. Mais là, une grande installation très loin de la ressource et ne faisant pas de cogénération, c'est un véritable scandale, puisque en fait, on va brûler sur 4 arbres, il n'y en a qu'un qui fera l'électricité, et les 3 autres feront simplement que chauffer l'atmosphère. Donc c'est un gaspillage, et on ne peut pas cautionner de tels projets, c'est totalement impossible.
Pourquoi est-ce que ce projet est si gigantesque, d'après vous ?
Parce que, en fait, on a tout pris à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de juger quelle était la biomasse disponible, prévoir des installations avec une haute efficacité énergétique proche de la ressource et proche des consommateurs, on a pris simplement un vieil outil obsolète. En fait, c'est un coût financier, hein. Le propriétaire de ce groupe avait un outil qui valait 0 euros. Et du jour au lendemain, il a pu investir pour se retrouver avec un contrat de fourniture de 20 ans. Donc maintenant, il a une valeur ajoutée considérable. Il pourra spéculer comme il veut là-dessus d'ailleurs. Et on n'avait même pas de plan d'approvisionnement ni de bilan carbone qui tienne la route.
Quels sont les impacts négatifs que vous imaginez ou que vous voyez déjà pour la région, pour les habitants ?
Le premier impact, ce serait l'impact environnemental, puisque le bois produit énormément plus de microparticules. C'est très à la mode avec le diesel, mais en fait, le bois, c'est assez considérable.
C'est-à-dire que ce n'est pas le bois en tant que tel, c'est le type de travail qui sera fait sur le bois.
C'est surtout la concentration, brûler 1 million de tonnes, c'est pas... C'est... Surtout, alors là, il faut le mettre dans le contexte local, c'est-à-dire que nous sommes entre Aix-Marseille, Fos-Gardanne, nous sommes une des régions les plus polluées d'Europe. Nous sommes condamnés au niveau de l'Europe depuis l'année dernière, c'est-à-dire que ça va nous coûter, je crois, 20 ou 30 millions d'euros, parce que nous n'avons pas respecté nos engagements dans la gestion des particules fines. Et la même année où le préfet signait l'autorisation d'exploiter pour 1 million de mètres cubes à Gardanne, il signait un plan, dans l'urgence, un plan de prévention de l'air, parce que justement nous y étions condamnés, qui nous interdit de faire un feu de bois au fond du jardin. Alors ça, c'est le côté santé, hein. Après, il y a le côté filière bois. En PACA, il y a 250 micro-centrales à bois qui ont peiné à mettre en place des plateformes de broyage, tout un circuit d'approvisionnement, qui vont se retrouver totalement déstabilisés, d'une part par les contrats d'E.ON et d'autre part par les contrats d'importation, parce que les professionnels de la filière bois le disent bien, ce projet, c'est un aspirateur à bois d'importation. Sur le côté scandale financier, c'est que cet argent qui va partir en fait, chez l'actionnaire d'E.ON ne sera jamais mis dans des structures locales de transition énergétique. Et avec ça, on aurait pu isoler des dizaines de milliers d'appartements qui auraient largement compensé la production de cette installation, d'une part, et puis aussi le décalage donc, entre ce fonctionnement continu et les besoins qui, jusqu'à maintenant, étaient tout à fait calés sur les périodes de forte demande, 2 à 3 mois par an.
Tout de même, Claude Calvé, juste pour être sûr, vous condamnez complètement l'utilisation de chauffage au bois, d'une centrale à bois ?
Alors ce n'est pas tout à fait une centrale à bois, c'est-à-dire qu'il y a l'effet de masse bien sûr, parce qu'un million de tonnes c'est pas négligeable, mais il y aura 11% du total de l'énergie entrante qui sera composé de bois de déconstruction, des déchets industriels, donc l'industrie du bois des agglomérés, déchets de chantier qui contiennent des vernis, des peintures, des colles. Il faut aussi ajouter que cette centrale non seulement brûlera du bois de déconstruction, mais elle va aussi brûler du charbon. Mais du charbon pour 13%, donc 135 000 tonnes. ça veut dire qu'elle brûlera quasiment autant de charbon que lorsque le groupe, depuis 2009, en fin de vie, ne fonctionnait plus que 2 à 3 mois par an. La ficelle est un peu grosse, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le droit de brûler de charbon. Enfin, du moins, économiquement, c'était plus du tout rentable. Et du jour au lendemain, ils en brûlent toujours autant. Ils rajoutent du déchet de bois et ils rajoutent 855 000 tonnes de biomasse. Et là, ils sont largement subventionnés. Donc, on est vraiment dans un cas qui, à mon avis, demanderait que la Cour des comptes aille beaucoup plus loin, qui a déjà émis un avis défavorable en disant c'est vraiment ce qu'il ne faut plus faire, mais demanderait d'aller un peu fouiller dans ces comptes-là parce que c'est extravagant.
Vous évoquiez les transports ?
Oui, alors les transports, tout se fera en tout cas au stade de l'autorisation préfectorale, le dossier d'autorisation préfectorale d'exploiter. Il n'est mentionné que le transport par camion. Depuis que les associations contestent le projet, l'industriel dit « oui, je vais voir si on ne peut pas faire un peu de train, un peu de transport par rail ». Mais en fait, pour l'instant, on n'en est qu'au camion. Ce qui veut dire que, pour prendre les chiffres minimum, parce qu'on les tire de la commission parlementaire, hein, 2800 tonnes de biomasse par jour, un camion toutes les 2 minutes, ça c'est dans le rapport de la commission parlementaire. C'est très difficile de dénombrer le nombre de camions, parce que d'abord, il faudrait rajouter les camions du bois, de déconstruction, les camions du charbon. Donc, on dépasse largement les 3000 tonnes par jour. Mais après, le bois va arriver, la biomasse va arriver sous différentes formes. Il y aura les troncs, qui sont actuellement en essai de broyage dans un site à côté de la centrale. Mais c'est plus, d'après ce qu'on peut comprendre du dossier technique, ce sont plus des réserves pour s'assurer un approvisionnement à flux tendu, enfin à continu. Et le bois, les plaquettes de bois d'importation arrivent sous forme de plaquettes. Alors là, on parle de mètres cubes apparents. Mais un mètre cube apparent, que ce soit du feuillu, du pin, le facteur camion peut aller de 1 à 4. Donc c'est très difficile. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que nos contacts aux États-Unis et en Grande-Bretagne disent que entre les tonnages annoncés dans tous les projets et la réalité de fonctionnement, lorsqu'on prend les bilans, il faut augmenter ces tonnages par de 40 à 80% pour être proche de la réalité. Parce que bon, tout ça, ce sont bien sûr que des dossiers administratifs pour avoir l'autorisation. Ensuite, la réalité est souvent un petit peu éloignée des chiffres avancés.
En fait, Claude Calvet vient d'élargir le propos, Jérôme Frédier, en parlant de ce qui se passe ailleurs. Et de fait, il semblerait qu'il y ait aujourd'hui un mouvement très international d'industrialisation de l'exploitation des forêts. Vous travaillez à l'ONF, vous êtes à la CGT PACA et vous êtes à Gardanne. Et donc, vous avez eu, vous aussi, à examiner ce projet de près. Et vous me disiez, c'est une déformation professionnelle, mais elle est bien compréhensible. Ce que vous voyez au bout de cette histoire-là, c'est la forêt détruite.
Voilà, tout à fait. Donc moi, je suis technicien de l'Office national des forêts. Donc nous, on gère les forêts publiques. Et toutes les forêts publiques sont exploitées de façon optimum par rapport à ce que produit la forêt. Et donc on coupe chaque année ce que produit la forêt. Ces coupes sont vendues. Elles sont actuellement toutes vendues. Et beaucoup absorbé par la papeterie Tarascon, un gros demandeur. Donc ce qui nous inquiète, c'est que sur le même bassin d'emploi, bassin d'approvisionnement, il y a cette méga centrale qui est en train de se monter. Donc ça inquiète beaucoup les 300 emplois de la papeterie Tarascon qui risquent de disparaître, puisque on ne peut pas couper plus que ce que la forêt produit. Enfin, c'est le risque justement avec E.ON, c'est de couper plus que ce que la forêt produit, et donc de ne pas laisser les forêts aux générations futures, puisqu'on va surexploiter ces forêts pour pouvoir alimenter cette méga centrale.
Les générations futures, je trouve que c'est toujours un peu abstrait. C'est à quel horizon, ce dont vous parlez là ?
Donc dans un premier temps, la moitié du bois qui va être absorbé par E.ON, c'est du bois fourni grosso modo par la région. Donc là, ça va aller très vite au niveau des coupes de bois et des rasés, quoi. Et à terme, normalement, c'est la totalité du bois qui doit être fourni au niveau de la région, donc les 1 million de mètres cubes. Mais ça va, les coupes vont commencer très très vite dans le privé, les forêts vont commencer très vite à être rasées.
Dans 6 mois, dans 10 ans, dans 50 ans ?
Dans les mois qui viennent, dès qu'elle va ouvrir. Et dans un deuxième temps, le risque, c'est la pression sur les forêts publiques que va faire le préfet pour alimenter E.ON. Et donc il y a un risque dans un deuxième temps, y compris pour les forêts publiques.
Jérôme Frédier, c'est un rayon de 400 km autour de la centrale de Gardanne. Qu'est-ce que ça représente sur le plan des massifs forestiers ?
Cette surface implique la création justement de nombreux collectifs un peu partout, y compris dans les Cévennes. Donc il y a des collectifs très actifs, donc, puisqu'il y a aussi le bois des Cévennes. On a
les châtaigneraies.
Les châtaigneraies des Cévennes, dans les parcs régionaux, dans les parcs nationaux. Donc ça va très loin dans les Alpes, dans les Cévennes.
Ce qui vous inquiète, c'est le côté gigantesque de ce projet. Est-ce que c'est aussi, comme le disait Claude Calvet, l'utilisation de la biomasse, qui est pourtant censée être neutre sur le plan CO2 ? Claude Calvet évoquait tout à l'heure les particules fines. Vous, en tant que forestier, qu'est-ce que vous en pensez ?
Donc c'est pas neutre du tout, puisque donc maintenant on a des consignes européennes, donc cet été il va y avoir des verbalisations, ça va commencer, donc verbalisation pour les gens qui font brûler leurs déchets végétaux dans leur jardin, puisque ça émet justement de nombreuses particules fines qui inquiètent l'Europe. Or, cette méga centrale de Gardanne, alors c'est autre chose que les trois herbes ou les trois branches que les gens vont brûler dans leur jardin, quoi, hein. Donc c'est une quantité de particules fines astronomiques qui vont partir dans l'atmosphère et qui vont dégrader la santé de la population.
Bon, mais tout de même, Jérôme Frédier, vous êtes syndicaliste, CGT, donc j'imagine que les emplois vous tiennent à cœur. Vous n'avez pas l'impression qu'il peut y avoir là un gisement d'emplois ?
Alors effectivement, nous, on se bat pour l'emploi. Donc il y a une opposition entre la CGT centrale et nous, hein, puisque la CGT centrale nous accuse d'être contre l'emploi. Or, les 60 emplois de Gardanne que maintiendrait soi-disant Eon, pour combien d'années, on ne sait pas trop, entraîneront la suppression des 300 emplois de la papeterie de Tarascon, plus les dizaines d'emplois des chaufferies locales. Donc si, nous, on raisonne en termes d'emploi de façon globale. Et puis de l'emploi périn, quoi, hein, et pas de l'emploi dont on ne sait pas si Eon ne va pas vendre sa centrale au bout de 2-3 ans, comme on craint que ce soit fait une fois que celle va être valorisée par justement les deniers publics. Donc la mairie de Gardanne, jusqu'à présent, moi je suis à Gardanne depuis 30 ans, donc c'est jamais préoccupé des problèmes de pollution et de santé publique, et les problèmes de l'emploi en dehors de Gardanne, ça les intéresse pas non plus, quoi. C'est produisons gardanais, et avec de l'emploi à Gardanne, le maire a dit plus les cheminées fument, mieux c'est, ça veut dire qu'il y a de l'emploi, mais ça, c'est pas sa préoccupation de maintenir l'emploi sur Tarascon et sur le reste de la région.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y retrouverez notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Gouzon. Mixage, Jean-Louis Deloncle. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.